Radio Prague, les informations. Bonjour, les sociaux-démocrates entendent déposer une motion de censure à la Chambre des députés si la coalition gouvernementale ne démissionne pas en bloc. Le leader du Parti des Verts, Martin Bursik, a été nommé provisoirement ministre de l'Éducation. Et enfin, selon le Bureau international du travail, le taux de chômage au troisième trimestre s'est élevé à 5,2%. Suite à la décision prise jeudi par le leader du Parti chrétien-démocrate, Jiří Čunek, de démissionner de son poste de vice-premier ministre alors qu'il est soupçonné d'avoir abusé du régime d'allocation sociale, le Parti social-démocrate, principal des deux formations de l'opposition, a annoncé vendredi qu'il entendait déposer une motion de censure à la Chambre des députés si l'ensemble du gouvernement dirigé par Mirek Topolánek ne démissionnait pas. Le leader de la social-démocratie, Jiří Paroubek, a déclaré qu'il considérait le départ du cabinet et l'organisation d'élections législatives anticipées comme la seule solution envisageable à la situation politique actuelle. Les représentants des trois partis de la coalition ont toutefois réagi en affirmant qu'ils n'entendaient pas démissionner en bloc. Politique toujours, le vice-premier ministre et leader du Parti des Verts, Martin Bursik, a été nommé ministre de l'Éducation vendredi par le président de la République, Václav Klaus. Martin Bursik n'a toutefois été mandaté qu'à titre provisoire, en attendant que les Verts, un des trois partis de la coalition gouvernementale, trouve un successeur à Dania Kurtova, l'ancienne ministre qui a démissionné de son poste il y a désormais un mois de cela. Selon le Bureau international du travail, organisme de l'ONU, le taux de chômage en République tchèque s'est élevé à 5,2% au troisième trimestre 2007, soit une baisse de 1,2 point par rapport à la même période l'année dernière. Au total, le nombre de personnes sans emploi était légèrement inférieur à 270 000, soit près de 100 000 de moins qu'en 2006. Il s'agit du taux de chômage le plus faible depuis la fin de l'année 1997. Selon les derniers chiffres communiqués par le ministère du Travail et des Affaires sociales, le taux de chômage au cours du troisième trimestre s'est élevé cependant à 6,3%. Cette différence de résultat provient du fait que le Bureau international du travail calcule le pourcentage de chômeurs dans la population active en tenant compte d'autres données que le ministère. En football, Milan Baroš, l'attaquant tchèque de l'Olympique lyonnais, a été contrôlé à 271 km/h jeudi sur l'autoroute A42 entre Genève et Lyon au volant de sa Ferrari, alors que la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Les gendarmes français lui ont confisqué sa voiture et retiré son permis de conduire. Selon la gendarmerie de l'Ain, il s'agit du record de vitesse enregistré dans le département. Milan Baroš, qui a affirmé aux gendarmes qu'il voulait faire entendre le bruit du moteur à l'ami qui voyageait avec lui, sera convoqué dans les prochains mois devant le tribunal de police. Il risque 3 ans de suspension de permis et une forte amende. On termine avec un mot de météo. Après une journée de vendredi dominée par la grisaille, aucune amélioration n'est prévue pour samedi, jour de la fête des Hubert, selon le calendrier local. Les nuages sont très présents tout au long du week-end. Les températures restent légèrement supérieures aux normales saisonnières et varient entre 10 et 14 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
Voici les sujets que nous avons choisis pour ce programme. La Chambre des députés a décidé d'introduire un nouveau régime plus sévère pour les ressortissants étrangers et les demandeurs d'asile en République tchèque. Le verdict sur le dernier procureur vivant du procès avec Milada Horáková, qui avait été condamné en 1950 à la peine de mort, a été finalement prononcé. Un nouveau centre pour les SDF a été ouvert à Prague. La première d'une nouvelle adaptation de l'opéra Norma au Théâtre National a provoqué des réactions mitigées. Les règles pour les ressortissants étrangers qui souhaitent obtenir un permis de séjour permanent ou l'asile politique en République tchèque vont vraisemblablement devenir plus strictes. La Chambre des députés a adopté cette semaine un amendement dans ce sens. Explication avec Alexis Rosenzweig.
La nouvelle législation apporte plusieurs changements pour les ressortissants des pays non membres de l'Union européenne, des changements concernant notamment les mariages mixtes. Jusqu'ici, les étrangers qui épousaient un ou une Tchèque obtenaient un permis de séjour permanent immédiatement après le mariage. Selon l'amendement voté mercredi par les députés de la coalition gouvernementale et par une poignée des députés de l'opposition, ce permis ne sera plus délivré qu'après 2 ans de vie dans le pays. Pendant les 2 premières années, seul un permis temporaire sera délivré par les autorités. On écoute Ivan Langer, le ministre de l'Intérieur.
La durée de séjour obligatoire est instituée, c'est-à-dire qu'un étranger ne recevra plus un titre de séjour permanent ou la nationalité tchèque automatiquement après son mariage. Nous avons eu et avons toujours un nombre énorme de mariages blancs. Et pour lutter contre ce phénomène, nous employons les méthodes utilisées dans bon nombre de pays européens. Nous ne sommes pas les plus stricts. En Allemagne, le délai après le mariage est fixé à 5 ans. Nous l'avons fixé à 2 années.
Autre nouveauté, les étrangers candidats à l'obtention d'un titre de séjour permanent devront maîtriser la langue du pays. Un examen de tchèque de niveau A2, passé avec succès, sera l'une des nouvelles conditions. Selon un professeur de tchèque, le niveau A2 permet de communiquer avec l'administration et dans la vie de tous les jours. Mais le niveau A2 en tchèque est apparemment beaucoup plus difficile que le niveau A2 en anglais, par exemple. De quoi décourager certains candidats. Concernant les demandeurs d'asile, la nouvelle loi prévoit qu'à l'aéroport de Prague, ils peuvent être maintenus pendant 120 jours dans le centre de Rosigné. Le ministre de l'Intérieur précise que toutes ces nouvelles mesures sont liées à l'entrée de la République tchèque dans l'espace Schengen. Malgré l'opposition des partis de gauche, la loi devrait être adoptée par le Sénat, puis signée par le chef de l'État avant d'entrer en vigueur.
L'unique verdict lié au fameux procès qui avait condamné en 1950 Milada Horáková, juriste et politicienne à la peine capitale, a été prononcé 18 ans après la chute du régime communiste et 57 ans après son exécution. Jeudi, l'un des acteurs du procès, la procureure Ludmila Polednova-Brožová, 86 ans, a été condamnée à 8 ans de prison pour co-responsabilité d'un meurtre judiciaire. Sa jeunesse ne peut excuser son comportement, déclare la fille de Milada Horáková, Jana Kanska, qui vit aujourd'hui aux États-Unis, à l'adresse de la procureure ouvrière Lida, dont le rôle pendant le procès consistait à porter un jugement moral sur sa mère et à soutenir bien sûr le cruel verdict. Tâche dont celle-ci s'est acquittée, les archives sonores en témoignent avec une grande ferveur. Écoutons-la.
Zatímco textilačka Herajtová z Kotony v Berouně zvyšovala svůj výkon na automatické...
Tandis que l'ouvrière Herajtová de l'usine de filature de Beroun augmentait le rendement des métiers automatiques afin de contribuer à l'édification de la République, l'accusée Horáková organisait des groupes ennemis clandestins pour la destruction de notre République.
Le même engouement, Brožová en avait fait preuve déjà lors de 2 autres précédents procès monstres qui ont donné lieu à la proposition de 14 peines de mort, dont une a été exécutée. Selon Petr Braun, président du tribunal municipal de Prague, cela prouve que la procureure, qui aujourd'hui déclare n'avoir aucun regret ou aucun remords, n'a été à l'époque ni inexpérimentée, ni juvénilement naïve, comme l'affirmaient les avocats de l'accusé. Et il précise.
Tout le monde sait que la procureure Brožová, compte tenu de son âge, ne passera ne serait-ce qu'une seconde dans une prison. Sa condamnation a surtout une dimension morale.
Malgré cette satisfaction, un brin d'amertume subsiste pourtant, notamment auprès des anciens prisonniers politiques. Pour eux, la justice n'a été rendue que très partiellement et trop tard. Impunis sont restés effectivement tous les autres principaux acteurs et initiateurs du procès de Milada Horáková, au cours duquel 4 peines de mort ont été prononcées, ainsi que des dizaines d'autres procès des années 50, montés dans l'ancienne Tchécoslovaquie sous la baguette et selon les scénarios des conseillers soviétiques, car ils ne sont plus de ce monde. Un manque de volonté politique, trop de velours à l'égard des protagonistes de l'ancien régime. Aux historiens de répondre un jour à ces questions pertinentes que beaucoup se posent. Nadieje, l'Espoir, la principale organisation caritative à Prague, vient d'ouvrir ses nouveaux locaux au centre-ville, après une fermeture involontaire de l'ancien centre en septembre 2006. Reportage de Jarka Gisubelova.
24 cellules préfabriquées à deux étages composent le nouveau centre journalier de Nadieje, destiné aux personnes sans abri. Il n'y a rien d'ambigu dans sa localisation, sous le pont de l'autoroute traversant le centre-ville. On a cherché à rester dans la même localité à laquelle les personnes sans abri étaient habituées et on y est parvenu, se félicite la directrice du centre Petra Lakatoshova. Pendant 14 ans, l'ancien centre apportait ses aides aux SDF dans la rue voisine Bolzanova, avant d'être obligé de fermer ses portes il y a un an, car le nouveau propriétaire n'a pas voulu de SDF dans son immeuble. La recherche de nouveaux locaux était pénible, les habitants des différents arrondissements étaient opposés à l'installation d'un pareil établissement. Finalement, grâce à la municipalité de Prague et au soutien financier du ministère du Travail, le nouveau centre de Nadieje a pu ouvrir pratiquement à deux pas de l'ancien. Le contrat entre la municipalité et l'association Nadieje qui gère le centre a été signé jusqu'à la fin de 2010, mais rien n'empêche sa prorogation, dit le conseiller Jiří Janeček.
Cela dépendra beaucoup de Nadieje, mais surtout des SDF, de leur volonté de ne pas troubler le calme des Pragois et d'utiliser cette aide pour essayer de réintégrer la vie normale. Les personnes sans abri ont besoin d'aide de la société et donc elles doivent respecter ces règles. Plusieurs projets sociaux ont été mis en œuvre pour les aider à trouver un emploi et un hébergement. Notre souhait est que le plus grand nombre de SDF retournent à la vie normale. La soupe ne suffit pas. Il faut les motiver pour essayer de trouver une place dans la société.
Le directeur de Nadieje en République tchèque, Ilja Hradecký, se félicite de ce qu'on soit parvenu à ouvrir les locaux avant l'hiver, la période la plus critique pour les personnes qui logent dans la rue et qui sont menacées d'exclusion totale.
Il n'y a pas que la soupe, les vêtements et l'eau chaude qui sont offerts aux sans-abri. Le plus important, c'est le travail social. Les travailleurs sociaux sont là pour accompagner les personnes sans-abri aux institutions, les aider à avoir leurs papiers en règle, à trouver un emploi. Le centre propose aussi les services médicaux complets, ainsi que la possibilité de consulter un psychologue.
Des milliers de personnes sans abri, hommes et femmes, jeunes et âgés, sans ou avec une formation, souffrant de traumatismes ou handicapés, sont passés par le centre de Nadieje, dit Ilja Hradecký. Lorsqu'en 1990, Nadieje a commencé, c'est un travail de bénévole qui apportait une aide aux SDF à la gare. Avec ses 18 centres et 550 travailleurs professionnels actuels, Nadieje est aujourd'hui l'une des plus importantes organisations caritatives en République tchèque.
Le Théâtre national de Prague a attendu 72 ans pour présenter jeudi une nouvelle production de Norma. Le chef d'œuvre de Vincenzo Bellini est redoutable, car il exige de la part des interprètes des voix exceptionnelles et une technique vocale impeccable. C'est pourquoi le Théâtre national a fait appel à deux cantatrices renommées, Vasa Frichter.
On peut dire que la diva russe Olga Makarina ayant incarné Norma et Carmen Oprisanu, qui a chanté Adalgisa, sont à la hauteur de leur rôle. Les deux cantatrices chantent dans le plus important théâtre lyrique du monde, dans le Met de New York. On n'arrive pourtant pas à chasser le souvenir des performances de Maria Callas ou de John Sutherland, qui ont su donner au personnage de la prêtresse gauloise non seulement une admirable voix, mais aussi une grande intensité dramatique. Le point le plus faible de cette dernière production du Théâtre national est cependant la mise en scène et aussi la scénographie. Le metteur en scène allemand Bruno Berger-Gorski a modernisé l'histoire de la prêtresse druidique en la transposant de l'année 50 avant Jésus-Christ aux années 40 du XXe siècle.
Heute, jetzt in Prag, als einer Hauptstadt von Europa, habe ich mich mit Daniel Dvorak und Osmani Lafitte.
Ici à Prague, l'une des principales villes européennes, nous avons choisi avec le scénographe Daniel Dvorak et le costumier Osmani Lafitte une conception intemporelle. Nous avons situé l'action dans les années 40, ce qui est la période de la guerre, mais d'une guerre générale. Ce n'est pas la Gaule occupée par les Romains, mais l'espace abstrait de l'âme, c'est la prison de l'âme d'une femme, de Norma, qui a mis au monde deux enfants conçus avec l'ennemi. Et dans cet espace restreint s'ouvre à la fin un grand espace utopique pour une nouvelle liaison entre Norma et Pollyon. Dans le final utopique de l'opéra, tous les aspects de l'occupation disparaissent.
In diesem utopischen Finale verschwinden alle occupierenden Elemente.
Le public d'opéra est habitué à ce genre de transposition et parfois une telle approche des œuvres du passé est défendable. Cette fois-ci cependant, les évolutions des chanteurs en costumes qui ressemblent à des uniformes nazis sèment la confusion dans l'action de l'opéra et désorientent non seulement les spectateurs mais probablement les exécutants eux-mêmes. L'histoire de Norma, Vestale qui se venge terriblement de Pollyon, le proconsul romain qui a cessé de l'aimer, devient opaque. Les caractères des personnages n'arrivent pas à se dessiner et le public, déboussolé, cherche en vain la logique de ce qui se passe sur la scène. Dans ces circonstances, il serait donc injuste de reprocher au chanteur qu'il manque d'intensité dramatique. L'accueil tiède et quelques sifflets que le public a réservés à cette première démontrent avec évidence que la dette du Théâtre national vis-à-vis de Norma n'a pas été payée.
C'était les faits événements en République tchèque. Le programme en français de Radio Prague se poursuit.
Économie, commerce. Alexis Rosenzweig.
Pour la première fois cette année, la Chambre de commerce franco-tchèque décerne un prix, ou plutôt trois prix, et nous avons demandé des précisions au directeur de la Chambre de commerce, M. Jaroslav Hubatavacek.
La Chambre de commerce franco-tchèque a fêté l'année dernière 10 ans de son existence. Donc quelque part, on peut constater que cet organisme s'est d'une certaine manière structuré, a atteint une vitesse de croisière, une activité soutenue et relativement stabilisée. On pense que donc du côté des sociétés françaises, le gros est quasiment fait. On peut dire donc en fait on sait qu'il y a donc quelques 400 filiales françaises présentes dans le pays et nous du côté de la Chambre de commerce franco-tchèque qui a quelques 320 sociétés membres, nous avons donc parmi nos membres toutes les grandes et moyennes sociétés françaises présentes. Et donc la croissance en fait de ce côté-là est quelque part en fait elle a atteint son niveau maximum. D'un autre côté, il nous paraissait assez évident que qu'il y avait encore des choses à faire, notamment du côté tchèque, parce que donc si on regarde déjà le nombre de membres, la proportion, ça se penche fortement du côté des sociétés françaises. Et
c'est-à-dire des entrepreneurs tchèques intéressés par le marché français?
Ils sont pour le moment donc beaucoup moins nombreux et nous pensons que le moment est venu aujourd'hui en fait de s'adresser et de se faire connaître auprès donc de ce grand public tchèque et notamment public d'hommes d'affaires tchèques en fait en tant qu'un organisme qui peut leur être utile dans leur approche du marché français. Et bien sûr, ça ne peut pas aller sans une visibilité certaine. Donc, en fait, ça peut être une des raisons, en fait, pourquoi on a envisagé, en fait, ces prix de la Chambre de commerce franco-tchèque. Mais, disons, ce seraient des raisons internes qui nous sont propres. Il y a aussi des raisons objectives, en fait, qui sont beaucoup plus liées au fait que ces relations franco-tchèques sont très, très intensives, mais souvent on en parle trop peu, c'est peu visible, et nous on reste persuadés qu'il y ait donc des sociétés, des individus, qu'il y ait beaucoup d'étudiants, de chercheurs, en fait, qui font des choses remarquables dont on sait trop peu de choses. Donc le but, c'est de les rendre beaucoup plus visibles.
Alors justement, vous parliez de chercheurs et d'étudiants. Est-ce qu'on peut parler des trois différentes catégories de ce prix cette année?
Donc premièrement, c'est l'entreprise de l'année, ensuite c'est la personnalité de l'année, et donc ensuite l'étudiant-chercheur. Les deux premières catégories sont très rapprochées. On pense que les nominés vont quelque part se recruter au sein notamment des entreprises, des PME, qu'elles soient tchèques ou françaises. On sait qu'il y a une multitude de prix qui sont décernés dans le pays, mais dans ce domaine, en fait, dans ce milieu franco-tchèque, il n'y en a absolument aucun. Et nous, on veut notamment regarder quelque part les résultats qualitatifs, non pas quantitatifs. Il ne s'agira pas du plus grand exportateur vers l'un ou l'autre pays, mais beaucoup plus de quelqu'un qui a pu montrer, en fait, que dans le domaine des affaires, dans le domaine culturel, environnemental, on peut faire des choses innovantes, on peut avoir une approche individuelle très intéressante et qui par exemple a permis d'éliminer des barrières culturelles ou sociales, ou qui a permis, en fait, réaliser dans une région un petit peu oubliée un événement culturel, par exemple. Voilà, c'est quelque part le but pour les deux premières catégories. Donc ça peut être réalisé par une entreprise, mais ça peut être aussi un individu, une personne physique qui a eu spontanément une initiative, et le grand public n'en serait strictement rien.
Et la troisième catégorie concerne les étudiants et les chercheurs.
Tout à fait. Donc dans ce domaine-là, on sait qu'il y ait beaucoup d'échanges, qu'il y ait chaque année des dizaines, voire des centaines de boursiers du gouvernement français, des Tchèques qui partent vers divers établissements scolaires, universitaires. Et il y a des étudiants qui rédigent des mémoires de diplôme remarquables, ou des thèses qui se font remarquer par l'établissement, par l'université, mais après on en sait peu. Il y a également des étudiants français qui passent des séjours plus ou moins longs en République tchèque et rédigent souvent des thèses de qualité remarquable. Et donc pour que ces travaux ne restent pas uniquement dans les milieux académiques, et pour tout simplement aussi rappeler l'importance de l'éducation et des échanges qui se font sur le plan universitaire entre les deux pays, on a voulu absolument introduire ces prix, parce que quelque part, on le sait très bien, ces étudiants, s'ils ont vécu un certain nombre de mois ou d'années dans l'un ou l'autre pays, ils vont réapparaître quelque part dans le monde des entreprises, dans les milieux culturels ou sociaux entre les deux pays.
C'était Jaroslav Ubatavacek, le directeur de la Chambre de commerce franco-tchèque, Et pour en savoir plus sur ce prix, les candidatures et tout ça, vous pouvez consulter le site de la Chambre dont vous trouverez l'adresse sur notre site internet. Vous connaissez l'adresse www.radio.cz, www.radio.cz.
Myslíš si, že najdeš klid, když moji zemi budeš mít, že krví smíješ všechen řík, těch davů jezdců na koních. Říkáš, mrtví nemluví, a tvůj Bůh, který všechno ví, je právě příliš vzdálený a ty teď vládneš na zemi. Ha, hej, ha, na, hej, ha.
Et à la fin de notre programme d'aujourd'hui, Marta Kubišová, qui vient de souffler ses 65 bougies et qui quand même demeure toujours très populaire. Merci d'avoir suivi notre programme. On se réveille dans
l'heure. Tu as tout ce que tu voulais et tu penses que tu as oublié. Quand le corps se change en prach, na duši mou si nedosáh. A na tvou hlavu padne stín a kříži otcům splatí syn, kde najdeš spásu pánu ví, až naše mrtví promluví. Ha, hej, ja, na, na, hej, ja, na, na, hej, ja, na, na, hej, ja, hej, ja, hej, ja, na, na, hej, ja, na, na, hej, ja, na, na, hej, ja. Svítí hvězdy, já cítím zemi, jak právě promlouvám. Můj den přijde a vím, pak bude se dít, co stát se má. Hej, já, na, na, hej, já, na, na.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz